On discute dans le studio de la Voix de la Russie.
Bonsoir, bienvenue dans le studio de la Voix de la Russie pour notre premier débat de la semaine. Merci de nous suivre ou de nous rejoindre. Nous allons discuter aujourd'hui du climat. Le climat qui engendre des négociations un peu tièdes. On oublie d'en parler en plein temps de crise, alors que le climat devient de plus en plus chaud. Il se réchauffe, on parle de réchauffement climatique. C'est une expression qui est désormais toute faite. Aujourd'hui, la pression atmosphérique est très basse, paraît-il. Je me trouve avec Boris Toumanov et Alexandre Artamonov, Macha Fogel avec
Bonjour,
vous.
Bonjour Macha.
Nous sommes tous un tout petit peu fatigués, mais nous allons vous donner un débat aussi bon qu'à l'habitude. Mais enfin, pression atmosphérique un peu basse, vous vouliez absolument en parler, Boris.
Oui, mais enfin, je sais que les efforts intellectuels sont contre-indiqués aujourd'hui, mais je vais essayer quand même de faire tout pour ne pas paraître trop idiot.
De briller un peu.
Voilà,
vous savez qu'aujourd'hui s'ouvrent à Durban, en Afrique du Sud, des discussions internationales sur le changement climatique. Depuis Copenhague, ces négociations internationales avaient nettement ralenti. On se rappelle le scandale auquel avait participé la Russie à ce moment-là. Le climat ne semble évidemment plus une urgence aussi forte pour les hommes politiques en temps de crise économique mondiale, en particulier en Europe. Pourtant, les constats des scientifiques restent alarmants. Ils attribuent les dernières catastrophes, sécheresse au Kenya, inondations en Thaïlande, feux de forêt en Amérique du Nord, au changement climatique, également le manque d'enneigement en ce moment en France, qui affectera le trafic des stations moyennes de ski, c'est ça aussi important. Tout cela serait le fruit du réchauffement climatique. Alors, quelles seront les négociations qui pourront aujourd'hui s'ouvrir à Durban? Est-ce que ça va avoir une importance ou est-ce que ça, finalement, ce rassemblement va passer complètement inaperçu, à votre avis, Boris et Alexandre?
Je pense que le problème qui nous préoccupe actuellement sur le réchauffement climatique, il fait l'objet de plusieurs spéculations. Il y a des spéculations du genre scientifique, et surtout politique et économique, parce que, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, on a parlé également du réchauffement climatique, et finalement, les gouvernements, au niveau du gouvernement, au niveau du monde politique, on a dit que c'était une spéculation gratuite, que c'était inventé par ceux qui, nuire à telle ou telle branche de l'industrie mondiale, ainsi de suite. Donc, c'était de la démagogie parce que, je me permettrai de vous citer un cas dont j'étais témoin moi-même. Je reste profane en matière climatique, mais j'ai mis le pied pour la première fois en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville, en 65. Pendant les 4 ans que je suis resté dans ce charmant pays, j'étais habitué à, un horaire des pluies absolument strict. Pendant la grande saison de pluie, c'est en hiver, c'était comme ça, vers 4 heures de l'après-midi, 5 heures, le ciel commençait à se couvrir de nuages et, vers 5 heures pile, c'était une avalanche d'eau qui s'abattait sur nos têtes. Ça durait une demi-heure, une heure, et après ça s'arrêtait.
Et c'était tout ça a changé.
Tous les jours. Je suis revenu au Congo-Brasin 10 ans après. Après mon départ, c'est-à-dire en 78, eh bien, les pluies, pendant la grande saison de pluie, on ne le constatait que, un jour sur 3, et encore...
Ça peut arriver, c'est quand même pas une preuve scientifique.
Attention, je suis resté pendant 6 mois, c'était la grande saison de pluie, et...
Il peut y avoir une année un petit peu étrange, et puis comme on dit depuis toujours, il n'y a plus de saison, dame.
Attendez, non. C'était pratiquement du crachin européen, quoi. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils disent, ils m'ont répondu, mais vous ne savez donc pas que le Sahel avance. Mmh. Cette zone aride qui sépare l'Afrique équatoriale du Maghreb avance vers le sud. Et donc, pendant mon absence, cette zone a touché déjà le territoire nord du Nigeria, l'Afrique centrale, le sud du Tchad, etc., etc. C'était un phénomène qui était constaté par tout le monde de visu, si vous voulez. Voilà.
Donc le réchauffement climatique vous inquiète beaucoup, et pour répondre à la question que je vous avais posée, vous vous inquiétez de ce que ces négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à Durban passeront sans doute par trop inaperçues par rapport à l'ampleur du phénomène que vous avez vous-même constaté oui. En Afrique. Alexandre, c'est à votre avis, qu'est-ce qui va en être de ces négociations? Est-ce qu'elles vont avoir de l'importance ou c'est simplement superficiel?
Les retombées, ou c'est juste pour discuter sans autre chose, un peu style parlement, parlement. Donc, écoutez, je crois que de toute façon, ça a beaucoup d'importance parce qu'il y a encore 20 ans, j'étais tout jeune journaliste, je travaillais à Paris, donc il y avait déjà les négociations amorcées à Rio de Janeiro. Mais à l'époque, se concevait comme quelque chose de tout à fait exotique. Enfin, il y avait trop de choses à faire, donc du pain sur la planche, et que, le dégel de l'Arctique et les problèmes du climat, c'était le cadet de nos soucis à l'époque. Mais en même temps, une histoire à raconter et puis bon, quelques conclusions très courtes. Donc l'histoire est toute simple. Il y a 15 ans, j'habitais un manoir dans le midi de la France. J'ai retrouvé dans la vieille bibliothèque remplie à craquer donc de bouquins en provençal, j'ai retrouvé des photos qui dataient des années 40-50 des anciens propriétaires de ce lotissement, de ce manoir, de ce château, et que on les voyait joyeusement faire du ski. Et même donc déblayer le terrain tout autour, il y avait de la neige, ça date des années 40. Or, à l'époque où j'étais résident dans le Midi, dans les années 90, il y avait bien sûr plus de neige du tout. Et c'était en hiver, cela affichait gaiement plus 15, plus 10 degrés.
On discute dans le studio de la Voix de la Russie.
Nous sommes dans le studio de La Voix de la Russie, nous discutons du climat, fait-il beau, ne fait-il pas beau? Pour l'instant, c'est de ça qu'on parle, avec Alexandre Artamonov et Boris Toumanov, Masha Fogel au micro. Passer ces considérations sur nos expériences du climat, si on en vient aux politiques et à la géostratégie, quelle est l'importance de cette réunion des pays à Durban? On sait que 3 pays, notamment, sont contre la prolongation en ce qui les concerne des accords de Kyoto. Le Japon, la Russie et le Canada ne veulent plus avancer sans des engagements des États-Unis et de la Chine, alors que l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou la Suisse s'engagent sans condition sur une deuxième période de prolongation de Kyoto, donc de réduction des émissions des gaz à effet de serre. On sait que la Russie n'est pas si mauvaise élève que ça. Elle s'engage à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre sur la période 2012-2020. Par rapport à 1990, de 15 à 25%. L'Union européenne est grande championne avec une diminution à laquelle s'engage de 20 à 30%. Le Japon, 25%. Les États-Unis et le Canada, 3%. Quant à la Chine, elle ne s'engage pas. Comment est-ce que ça peut se régler diplomatiquement, ces différences? Est-ce qu'à Durban, selon vous, on va y arriver un petit peu mieux qu'à Copenhague? Boris.
C'est là que le bât blesse, cher Macha, parce que déjà le protocole de Kyoto était une première tentative de concertation entre les États industriels pour diminuer donc les émanations de gaz à effet de serre. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on recommence à se chamailler à propos du pourcentage de diminution dont ils se chargent et ainsi de suite. Qui dit émanation de gaz à effet de serre dit économie, dit dépenses et dit concurrence. Donc, je suis très pessimiste à propos de cette réunion parce que elle va se terminer toujours en queue de poisson. Il y aura peut-être des décisions qui seront prises, des vœux pieux qui seront émis, et ainsi de suite. Mais le problème restera là. Cela sans parler d'autres problèmes qu'on doit à l'activité humaine. Par exemple, personne ne songe à trouver la solution à ce qu'on appelle la tache des déchets qui s'est formée dans la partie nord de l'océan Pacifique et qui s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est une accumulation de tout ce qui tombe dans l'océan. Des bateaux, des rives, ainsi de suite. C'est une véritable calamité. Mais ça existe, on constate l'existence de cette tâche et sans rien entreprendre, on n'y peut rien. Voilà.
Alexandre.
Justement, en faisant écho à Boris, il ne s'agit même pas de la pollution au propre sens du terme. Il s'agit du gaz carbonique qui échappe de cette tâche en décomposition. Et plus il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère, plus l'effet de la serre s'en trouve, si vous voulez, accéléré, augmenté. C'est-à-dire que cela réchauffe davantage la planète. On se fiche peut-être de la propreté, mais en tout cas, il faut bien réfléchir à quelque chose de tout à fait simple. Et les Européens n'ont pas l'esprit, enfin, n'ont pas peut-être le loisir d'y réfléchir. Il y a beaucoup de CO2, c'est-à-dire gaz carbonique, sous sa forme gelée, se trouvant en Sibérie. Et du méthane également, qui est un gaz inerte, mais qui contribue aussi au réchauffement. Alors, plus le climat se réchauffe, plus la Sibérie se réchauffe. Et donc, une fois le seuil critique franchi, le Rubicon passé, il y aura donc, beaucoup de gaz carbonique qui va échapper de la Sibérie.
Le méthane va se dégager, oui.
Tout à fait, vous avez raison, Boris. Le méthane, aussi bien que le CO2, parce qu'il y a également du gaz carbonique sous sa forme gelée, avec du méthane. Ce qui pourrait quintupler l'effet de la serre. Et cette fois-ci, il y aurait, enfin j'espère que non, en touchant du bois, une inondation massive des régions nord de l'Europe du Nord.
Comme justement. Au Thaïlande.
Vous savez ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose de tout à fait irréparable. Et il faut bien qu'on y réfléchisse. Mais une chose tout de même à dire, on a beau essayer de contrôler le climat. Vous vous souvenez peut-être, Macha, de cette histoire des trous dans la couche d'ozone,
oui.
Avec le fréon, le gaz, donc frigo, etc. Ben, finalement, selon les scientifiques, on aurait découvert, sous conditionnel tout de même, que nos activités à nous, des êtres humains, ne seraient pas vraiment la première cause,
oui.
Donc, de ces trous. On essaie peut-être de faire quelque chose, mais en tout cas, on ne peut pas vraiment réparer les dégâts qui sont ceux d'un cycle naturel de la nature, malheureusement.
Oui, ça c'est une interrogation des scientifiques. Il y a le fameux GIEC, le groupe international des experts du climat, qui travaillent sur cette question. Alors comment est-ce qu'ils travaillent? Ils essayent de trouver des traceurs de l'environnement, en fait, pour retrouver les climats passés, pour modéliser le climat, pour pouvoir, si vous voulez dire, voilà, il y a des vagues de chaleur, de froid, etc., pour pouvoir retrouver la composition atmosphérique des siècles passés et pouvoir ainsi déterminer les rapports entre l'homme et le climat. Pour faire tout cela, je vous rappelle qu'ils étudient, ou je vous annonce, moi je ne savais pas forcément, en fait, ils étudient des carottes de glace, les sédiments des lacs. Ils s'intéressent aussi aux arbres très anciens, aux cernes des arbres, ces cercles qu'on trouve dans les souches pour qu'ils essayent d'étudier. Et comme ça, ils essayent de comprendre comment marche le climat, comment il a évolué, comment il va évoluer, et en essayant de modéliser avec ce que nous envoyons dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre. Alors, selon l'Organisation météorologique mondiale, les principaux gaz à effet de serre, ont franchi un nouveau record de concentration en 2010, alors qu'à Copenhague, les pays ont quand même signé un traité pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Et ça, c'est un objectif qui s'éloigne, puisque selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, nous allons plutôt vers un réchauffement de 2,5 degrés. Au pire, 6 degrés. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Vous parlez d'inondations massives avec un dégel de la Sibérie, etc. De son côté, l'Agence internationale à l'énergie estime que si rien n'est fait avant 2017, Bon, c'est quand même très très bientôt. Il sera trop tard pour limiter notre réchauffement global à un niveau supportable. Alors encore faudrait-il qu'on soit sûr de ce qu'est un niveau supportable, etc. On a, si vous voulez, c'est un sujet très flou. On a l'impression que c'est urgent. C'est très urgent et en même temps qu'on n'est pas du tout sûr de ce que ça signifie. Est-ce que pour vous, c'est suffisamment bien traité par les politiques? Et j'aimerais vous poser la question sur la Russie en particulier. Est-ce qu'on en parle en Russie? Est-ce que c'est un sujet qui intéresse la population? On sait que la population russe est attachée à la nature, aux produits frais, etc. C'est important pour les Russes. En même temps, c'est un pays qui reste très polluant. Donc, pollueur, donc on va discuter de tout ça après une petite pause.
On discute dans le studio de la Voix de la Russie.
Nous sommes dans le studio de la Voix de la Russie avec Alexandre Artamonov et Boris Toumanov, Macha Fogal au micro, pour un débat aujourd'hui sur le climat à l'ouverture de la conférence de Durban sur le réchauffement climatique. En Russie, donc, quelle est la politique pour le climat? Est-ce qu'elle est suffisamment développée? Ou bien est-ce que c'est un problème de riches, comme le disent parfois les Russes, qui n'a pas à être traité par un pays qui a déjà suffisamment de problèmes de socio-économiques à régler? D'ailleurs, on voit qu'en Occident, en pleine crise, on ne s'occupe pas trop de Durban. Ou est-ce que, à votre avis, là, ça commence à être de plus en plus discuté en Russie? Comment vous sentez ça?
Je vous dirais tout d'abord que, enfin, vous avez posé la question si les hommes politiques sont sérieusement inquiets par ce problème. Je dirais que toutes ces initiatives, protocole de Kyoto, conférence de Durban, c'est organisé purement par acquis de conscience, tout simplement, parce que personne ne croit parmi eux à un succès de cette entreprise et après nous le déluge. Voilà ce qu'ils disent. En ce qui concerne l'attitude de la Russie, ou plutôt de la société russe vis-à-vis de ce problème, je pense que Tout d'abord, les Russes actuellement ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper des problèmes climatiques, primo. Et ensuite, les Russes n'ont jamais vraiment pensé, ils ne sont vraiment jamais, enfin, ils sont jamais préoccupés des problèmes climatiques. Et cela, c'est un phénomène purement psychologique. Leur territoire est tellement immense que pour eux c'est vraiment une sorte de terre, c'est leur monde qui finalement reste inconnu. Par exemple, le nord de la Sibérie, enfin le nord de la Russie en général, c'est terra incognita. Il y a pas grande population sur mètre carré. Pour eux, ils ne se sentent pas concernés. Je répète que c'est un phénomène purement psychologique. Même dans les cas où il y a une pollution, mais vraiment flagrante, comme Tchelyabinsk, par exemple, qui était porté sur la liste de 10 villes les plus polluées du monde. Je dois vous dire que, enfin, j'ai lu un reportage il y a 3 ou 4 semaines sur l'environnement de cette région. Eh bien, les gens vivent littéralement dans la gadoue chimique. Et il se comporte de manière absolument imperturbable. Voilà. Ça ne les atteint pas. Ils ne se sentent pas concernés, même s'ils en meurent. Voilà.
Alexandre.
C'est Macha, deux choses à dire.
Vous êtes d'accord sur ce fatalisme?
Fatalisme, non. Ils ont sous-développement culturel pour traiter ce genre de problème. Oui, c'est-à-dire que les Russes manquent cruellement de données. Et peut-être qu'ils ont des soucis, disons, un peu plus importants, comme la survie économique et financière, pour se pencher sur le protocole de Durban. Mais par contre, la presse nous fournit beaucoup d'articles, à commencer par le métro, disons, le journal le plus populaire que distribué dans, disons, le métro moscovite. et aller en crescendo. Il y a beaucoup d'informations, mais cette fois-ci, c'est juste pour porter le blâme sur les États-Unis qui sont, et d'ailleurs c'est vrai, beaucoup plus pollueurs par rapport à la Russie, ne serait-ce déjà que par leur population et par leur niveau de vie. Et d'ailleurs, c'est la raison majeure pour laquelle Washington a toujours refusé de ratifier le protocole de Kyoto et de l'appliquer à la lettre, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de réduire. Mais vous prenez la population russe qui fait, en disons, étoffant un peu les idées de Boris, qui fait donc moins de 145 millions d'habitants, parce qu'il n'y a toujours pas de résultat de recensement, du dernier recensement. Il y a à peu près 142 millions, en tout cas c'est, de Russes pour un territoire qui est aussi immense que le continent africain.
Un sixième du territoire mondial.
Et que d'abord, c'est le pays qui pollue le moins et qui a déjà proposé plusieurs reprises de vendre les quotas aux pays plus développés, comme les États-Unis par exemple. On peut très bien faire le commerce de quotas, vous le savez aussi bien que moi. Mm-hmm. Et en même temps, il y a bien sûr la pollution radioactive qui inquiète et qui gêne beaucoup. Là, tout le monde y est sensible parce qu'on n'échappe pas à l'atome, mais pas à la pollution normale. Mais en civilisation mystique, je pourrais dire que l'intelligentsia russe a conçu depuis longtemps, depuis déjà longtemps, si vous voulez, donc cette idée d'une biosphère vivante. Je pense notamment à Vernadsky, qui était l'un des penseurs russes du début 20e, et qui disait que la Terre résiste, si vous voulez, à la surpopulation, et qu'elle s'invente des mécanismes d'autodéfense. Et là, on est par trop nombreux. On est plus de 6 milliards actuellement, tandis qu'au début 20e, on était juste...
7 milliards,
oui, j'ai raison. 6 milliards il y a 15 ans, maintenant 7 milliards. On était juste au nombre de 1 milliard et quelques au début 20e. Donc, trop c'est trop. On ne peut pas vraiment dépasser les bornes, ce qu'il paraît...
Là, il y a des avis très divergents sur cette question. Hein,
mais la surchauffe y est pour quelque chose. Enfin, disons qu'on doit bien réfléchir. Vous dites, excusez-moi, je voulais juste tout de même commenter en deux mots ce que vous venez de dire sur les retombées, sur les conséquences immédiates de ce qui nous arrive. Vous avez dit, c'est assez flou. C'est un peu comme si c'était du yaourt. On n'y voit pas dedans. S'il y a quelque chose qui est très crucial, très urgent avant le déluge, enfin déluge biblique, enfin, on en parle, mais pourvu que ça n'arrive jamais. Il y a la densité du courant marin qui chauffe l'Europe, parce que l'Europe peut très bien se permettre de ne pas être aussi bien chauffée que la Russie, bien qu'elle se trouve, si vous voulez, sous la même latitude que la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Gulf Stream. Eh bien, s'il y a la fonte de la banquise polaire, la densité de l'élément aquatique va changer. C'est les scientifiques qui fournissent les données. Et si cela change, donc Gulf Stream va changer, si vous voulez, de direction, parce que la densité ne serait plus la même. Et qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, Gulf Stream va bifurquer en direction de l'Afrique. Et l'Europe se trouverait, si vous voulez, sous la même latitude que la Sibérie, mais sans son chauffage central. Alors, vous imaginez bien les orangers du Portugal sous la glace éternelle. J'espère que ça ne va pas arriver, mais c'est des choses qui s'annoncent déjà, parce que il y a, à l'heure qu'il est, donc Groenland et donc le cercle polaire qui est de plus en plus effrité.
Vraiment, plus j'y pense, plus j'entends des choses de ce genre, plus je commence à croire que la théorie selon laquelle l'humanité, c'est l'impasse de l'évolution, est véridique.
Et oui, le cercle vicieux de l'évolution.
Merci beaucoup à tous deux pour votre discussion et pour vos conclusions. C'était Boris Toumanov, Alexandre Artamonov, Masha Fogel sur La Voix de la Russie pour le débat du jour sur les négociations qui s'ouvrent à Durban, des négociations relativement tièdes face à un climat plus chaud, encore que en Europe, ça ne soit pas forcément ce qui s'annonce. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons demain pour un prochain débat. Très bonne soirée.